lors du culte que nous avons eu, ça fait quelques semaines maintenant, en partenariat avec l'association CEL, ceux qui étaient là ce jour-là. Vous vous souviendrez peut-être de cette remarque de Paul Appéré. Il a dit « Quel dommage que le DVD que nous avons projeté en partie ce jour-là et qui nous montrait des aspects de la vie d'église, notamment de chrétiens au Togo, quel dommage que ce DVD n'incluait pas le temps d'offrande. » Parce que dans beaucoup d'églises africaines, peut-être pas toutes, mais l'offrande est vue vraiment comme un moment privilégié, comme une fête. Et souvent, on s'avance famille par famille en dansant. Alors j'ai essayé de visualiser un peu ce que ça pourrait donner si on faisait ça ici à la rue de Sèvres, et l'image était cocasse. Ici, bien sûr, ce serait plutôt l'extrême inverse. Ni vu ni connu, je dépose un chèque dans le tronc au fond de la salle après le culte, ou plus discret encore, je fais un virement en ligne. Et en fait, dans un sens, chacune de ces pratiques, d'un côté la fête et puis de l'autre côté la discrétion, chacune de ces pratiques reflète une partie de l'enseignement biblique sur le don. En faveur de la discrétion, on peut citer ces paroles de Jésus. « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le don est fait en conscience devant Dieu et pas pour attirer l'attention sur soi. En faveur d'une démonstration publique et joyeuse de générosité au sens collectif, on peut citer ces paroles de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe concernant la collecte pour l'église de Jérusalem. « À la vue des églises, donnez-leur donc la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons raison d'être fiers de vous. » 2 Corinthiens 8, 24. Et là, on voit que la générosité se vit en communauté, en église, dans la joie d'un élan commun pour l'œuvre du Seigneur. Et charge aux chrétiens dans chaque culture de trouver les moyens de tenir en équilibre ces deux principes bibliques en trouvant des expressions appropriées. Je pense que pour la collecte d'encens, on attendra encore un petit peu ici. Alors ce matin, je poursuis et je termine, en tout cas pour un temps, une série de messages dans la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Et il y a quelques semaines, donc dans le cadre de ce culte du sel, nous avions examiné le début du chapitre 8 et on avait vu l'invitation que l'apôtre Paul a adressée aux Corinthiens de participer à une collecte en faveur des chrétiens pauvres de la Judée, la région autour de Jérusalem, pour faire simple. Pour Paul, il s'agissait non seulement de concrétiser la solidarité des disciples de Jésus-Christ, mais il s'agissait de montrer aussi de manière tangible l'unité entre les chrétiens d'origine non-juive et juive. Et dans l'extrait de ce matin, l'apôtre poursuit son propos et donne aux Corinthiens des arguments supplémentaires. Il veut les motiver à donner. Et en étudiant brièvement ce texte, nous allons nous poser la question pour nous-mêmes, qu'est-ce qui nous motive à donner? Et donc, je vous invite tout d'abord à la lecture du texte. C'est donc dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, à partir du verset 16. Et nous irons jusqu'au chapitre 9, verset 15. Dans les Bibles bleues, c'est à la page 1132-1133. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre encouragement avec plus d'empressement que jamais. C'est de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, à cause de ce qu'il a fait pour la bonne nouvelle, est répandue dans toutes les églises. Bien plus, il a été désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de grâce qui a été confiée à notre ministère pour la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre ardeur. Nous ne voulons pas qu'on nous prenne en défaut au sujet de cette abondante collecte confiée à notre ministère. Car nous nous préoccupons de ce qui est bien non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des humains. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons éprouvé l'empressement bien souvent, en bien des occasions, et qui en montre plus encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les apôtres des églises, la gloire du Christ. Donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour. Prouvez-leur que nous avions raison de nous montrer fiers de vous devant eux. C'est le petit verset que nous lisions un peu plus tôt. Chapitre 9. Au sujet du ministère en faveur des saints, il est superflu que je vous écrive. Je connais en effet votre ardeur dont je fais ma fierté devant les Macédoniens. L'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et votre passion a stimulé la plupart. J'envoie les frères pour que la fierté que nous avons montrée à votre sujet ne soit pas réduite à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit, de peur que si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, la situation ne tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc estimé nécessaire d'encourager les frères à me devancer chez vous pour s'occuper de la largesse que vous avez promise, afin qu'elle soit prête comme une largesse et non comme un geste d'avarice. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ainsi qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice demeure pour toujours. Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture vous fournira la semence, la multipliera et fera croître le produit de votre justice. Vous serez ainsi riches de tout, pour toute la générosité qui produira par notre entremise des actions de grâce envers Dieu. Car le ministère de cette offrande non seulement supplée à ce qui manque au saint, mais encore fait abonder les actions de grâce envers Dieu. Du fait de la valeur éprouvée de ce ministère, il glorifie Dieu pour l'obéissance avec laquelle vous reconnaissez publiquement la bonne nouvelle du Christ et pour la générosité de votre solidarité avec eux et avec tous. C'est avec une vive affection qu'il prie pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Bien, cette série dans la deuxième lettre aux Corinthiens nous amène à ce texte sur un sujet qu'on considère parfois un peu délicat, celui du don, de la générosité. Qu'est-ce qui motive la générosité chrétienne? Je voudrais relever trois motivations que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens dans ce texte. Premièrement, les chrétiens donnent parce qu'ils aiment leurs frères et sœurs. Deuxièmement, les chrétiens donnent parce qu'ils ont à cœur l'œuvre de Dieu. Et troisièmement, les chrétiens donnent parce qu'ils s'attendent à la générosité de Dieu. Premièrement, donc, les chrétiens donnent parce qu'ils aiment leurs frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette affiche de la RATP dans le métro. Nous aimons, nous participons. On a tous vu ça. Et la RATP, j'imagine, veut se faire connaître sous un visage plus attrayant que simplement les incidents techniques, les métros bondés, les grèves, etc. Et donc, soutient par une forme de mécénat d'entreprise, diverses initiatives culturelles. Et c'est une très bonne chose. Et ce petit slogan, « Nous aimons, nous participons », il est bien trouvé, je trouve. Et à vrai dire, il aurait presque pu être utilisé par l'apôtre Paul dans ce texte. Dans la seconde moitié du chapitre 8, en particulier, Paul insiste sur cette dimension d'amour qui est indissociable de la générosité à laquelle il appelle les Corinthiens. Il y a d'abord l'amour de Paul et de Tite, son collaborateur, pour les Corinthiens eux-mêmes. Verset 16 du chapitre 8. « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement, sous-entendu que moi, pour vous. » Si Paul accorde autant d'importance à la générosité des Corinthiens, c'est parce qu'il les aime. Et on verra plus tard que pour l'apôtre, l'offrande chrétienne n'est pas une sorte de taxe supplémentaire qu'on paye en soupirant, mais un privilège dont il ne veut pas priver les Corinthiens. C'est Paul d'ailleurs qui, citant Jésus, dans un de ses discours du livre des Actes, dit ceci, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Pour Paul, la générosité est aussi un signe clair d'une bonne santé spirituelle. La collecte, rappelle-t-il au verset 19, est une œuvre de grâce. Et son objectif ultime, c'est la gloire du Seigneur lui-même. Et donc, Paul veut que les Corinthiens soient généreux parce qu'il sait que cette générosité témoignera de leur abondance spirituelle. L'amour de Paul se voit aussi dans la délicatesse qu'il emploie pour organiser cette collecte. D'ailleurs, il leur dit clairement, pour que les Corinthiens ne soient pas mis sous pression au dernier moment, pris au dépourvu, même si c'est eux-mêmes qui avaient promis depuis longtemps cette collecte, comme on l'apprend par ailleurs. Pour que les Corinthiens donc ne soient pas mis sous pression, il envoie avant sa propre venue Tite, et deux collaborateurs qui restent anonymes, ils sont venus avec Tite et leur identité était sans doute évidente puisqu'ils se présentaient avec la lettre, ces deux collaborateurs anonymes pour pouvoir relever sereinement et de manière transparente cette collecte, pour que les Corinthiens ne se sentent pas mis sous pression par la venue en personne de l'apôtre Paul, qui viendra effectivement un peu plus tard. Mais pour l'apôtre, l'offrande doit aussi être une preuve de l'amour des Corinthiens pour leurs frères et sœurs judéens, et réciproquement. Verset 24, « Donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour. » Et en fait, cet amour va dans les deux sens, comme le montre le chapitre 9, verset 14. « C'est avec une vive affection qu'ils, les Judéens, prient pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. » On voit bien que Paul n'invite pas les Corinthiens à faire un geste humanitaire, mais plutôt à concrétiser leur amour pour des frères et sœurs qu'ils n'avaient sans doute jamais rencontrés pourtant, mais avec qui ils étaient liés par un lien plus fort que tous les autres, l'amour de Jésus-Christ. L'apôtre Jean écrira plus tard, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu, et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. » Pouvons-nous affirmer que nous aimons Dieu et considérer comme peu de choses son Église, son œuvre, l'extension de son règne? Nous aimons, nous participons. Est-ce que nous pourrions dire la même chose? Est-ce que nous voyons l'offrande à notre Église locale et à d'autres œuvres chrétiennes comme un témoignage d'amour ou comme une sorte de taxe en plus, un devoir un peu pénible? Nous voulons donner parce que nous aimons nos frères et sœurs et plus largement, parce que nous aimons tous ceux qui franchiront la porte de cette église. Nous souhaitons qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions, dans des locaux adéquats, y compris pour ceux et celles qui souffrent d'un handicap. Nous souhaitons qu'ils puissent bénéficier d'un enseignement solide, d'un accompagnement personnel s'ils le souhaitent. Nous voulons donner aussi parce que nous pensons à tous ceux et celles qui n'ont pas encore entendu l'évangile véritablement annoncé, dont certains nous rendent visite régulièrement. Ils sont des millions autour de nous, ceux qui n'ont pas encore reçu cet évangile. Et nous les aimons. Nous voulons donc participer aux projets, aux événements, à l'œuvre des ouvriers qui répondent à cet appel. Nous voulons donner aussi, parce que nous aimons, ceux qui vivent dans des circonstances matérielles difficiles. Également, parce que nous aimons ceux qui vivent la persécution pour leur foi. Paul l'a déjà écrit aux Corinthiens dans sa première lettre, « Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. » Ce matin, je m'adresse bien sûr avant tout aux habitués de cette église. Reposons-nous la question de notre engagement dans cette église. Peut-être que nous serons tout à fait rassurés par la réponse que nous y apporterons, mais posons-nous cette question à nouveau. Notre engagement financier, notre engagement également par le don de soi et de son temps, en tenant compte bien sûr des contraintes de chacun qui sont bien présentes. Comprenons bien que Dieu ne nous appelle pas à faire un geste pour l'église. Donner un petit coup de main, c'est vraiment pas ça l'idée dans le Nouveau Testament. Histoire de faire tourner l'Église comme une association à laquelle on adhère et donc on donne un petit peu. Il ne nous appelle pas non plus à donner les miettes qui nous restent en fin de mois. Une fois que nous aurons couvert toutes nos priorités, il faut bien voir ce que ça veut dire d'agir ainsi. Ça revient à reléguer l'œuvre de Dieu à la dernière place. Je viens de parler de l'œuvre de Dieu et c'est justement la deuxième motivation que nous allons souligner ce matin. Les chrétiens donnent parce qu'ils ont à cœur l'œuvre de Dieu. En réalité, nous avons commencé à aborder ce point dans la première partie parce que entre aimer Dieu et ses enfants et avoir à cœur la mission de Dieu, eh bien, il y a évidemment un lien direct. Mais je voudrais attirer votre attention sur la vision large de l'apôtre Paul dans ce texte. Souvent, dans nos églises évangéliques françaises, avec des moyens généralement limités, nous pouvons être tentés d'avoir pour but suprême la survie d'une église. Alors, on n'ose peut-être pas le dire ouvertement, bien sûr. Je n'ai encore jamais vu un beau PowerPoint ou une vidéo qui présente la mission pour les 10 ans, la survie de l'Église. Objectif survie, si on est encore là dans 10 ans, on aura rempli notre mission. Alors, il est vrai que dans notre contexte économique, c'est souvent la survie qui devient l'objectif quand on pense, par exemple, aux petites et moyennes entreprises. Et bien sûr que survivre, c'est une bonne chose. Mais trop souvent, le fait que la machine tourne, entre guillemets, nous satisfait. La croissance de l'Église, parlons déjà de survie. L'extension, l'implantation de nouvelles églises, ces millions de Français et d'autres qui n'ont jamais entendu l'Évangile clairement annoncé, oula, on en reparlera quand on aura réparé le toit ou quand on aura réglé d'autres problèmes. La relève pastorale et missionnaire, il y a des instituts de formation qui s'occupent de ça, qui ont sûrement les moyens de se financer d'une manière ou d'une autre. Que Dieu les bénisse. Ou peut-être plus délicat encore pour nous, l'engagement envers les plus faibles. N'en parlons même pas. Et je ne veux pas minimiser les contraintes bien réelles qui sont les nôtres. Et je précise qu'à mon sens, l'église de la rue de Sèvres est une église généreuse pour l'œuvre du Seigneur et elle l'a montré à de maintes reprises. Ça ne doit pas nous empêcher, face à la parole de Dieu, de nous demander à nouveau si nous ne risquons pas parfois, je sais que c'est le cas pour ma part, un vrai déficit d'ambition. Encore une fois, il y a une différence entre simplement faire tourner les choses pour qu'elles continuent à fonctionner et un engagement ambitieux et audacieux pour que le désert spirituel qui nous entoure reverdisse, pour reprendre l'expression d'un collègue. Dans notre texte, il est frappant de voir que l'apôtre Paul ne joue pas une seule fois sur la corde sensible pour culpabiliser les Corinthiens. Il ne leur dit pas « Vos pauvres frères judéens ont à peine de quoi manger. Ils ont besoin d'un coup de main, histoire de les remettre sur pied jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Allez les amis, vous pouvez faire un geste. » Ce n'est pas comme ça qu'il argumente, mais plutôt en faisant appel à l'ambition des Corinthiens pour l'œuvre de Dieu. Au chapitre 8, verset 19, Paul parle d'une œuvre de grâce qui a été confiée à notre ministère pour la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre ardeur. Chapitre 9, verset 13, « Du fait de la valeur éprouvée de ce ministère, il glorifie Dieu pour l'obéissance avec laquelle vous reconnaissez publiquement la bonne nouvelle du Christ et pour la générosité de votre solidarité avec eux et avec tous. » L'unité et la solidarité de l'Église sont pour l'apôtre la preuve que l'Évangile est efficace, qu'il transforme des vies, et tout cela honore Dieu. Nous avons un Dieu qui a donné ce qu'il a de plus cher pour nous combler. L'apôtre l'a d'ailleurs dit au début du chapitre 8, il s'est rendu pauvre pour nous. Et ce même Dieu nous a confié une mission extrêmement ambitieuse, extrêmement ambitieuse. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est énorme comme mission. Dieu nous envoie dans un monde perdu annoncer un message qui transforme les vies de ceux qui le reçoivent, un message puissant, fondé sur cette bonne nouvelle de la réconciliation que Dieu offre aux hommes, un message qui porte déjà en lui la réalité d'une nouvelle création qui vient. Les enjeux sont immenses. Et cette mission, elle exige de notre part un investissement total par notre manière de vivre, notre fidélité à la parole de Dieu et par le changement radical de nos priorités. Écoutez ce qu'écrit le pasteur et théologien John Piper au sujet de l'argent dans la vie chrétienne. La vie est une guerre. Les victimes de cette guerre se comptent par millions et son enjeu est éternel. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui est non pas d'un appel à la simplicité, mais d'un appel au combat. Dieu n'est pas glorifié quand nous gardons pour nous-mêmes, même si c'est avec reconnaissance, ce que nous aurions dû utiliser pour soulager la misère de millions de personnes non atteintes par l'Évangile, non éduquées, non soignées ou mal nourries. Et en lisant ça, on peut se dire qu'il met la barre haut quand même. Mais que dire de Jésus qui dit « Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône » Luc 12, verset 32. Ou encore l'apôtre Paul qui écrit « Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffira » 1 Timothée 6, 9. Alors avant de se précipiter pour remettre ces paroles dans leur contexte, nous devons quand même les écouter. Est-ce que Dieu n'a pas tout de même quelque chose à nous dire à ce sujet ? Paul n'invite pas les chrétiens à s'infliger une charge qu'ils ne sont pas capables de porter. Il approuve le fait que le don soit en adéquation avec les moyens de chacun. On voit ça au chapitre 8, verset 11. Mais il leur demande de donner généreusement et joyeusement, avec audace. Notons au passage qu'il ne parle pas ici de dîme, les 10% du revenu. Alors la dîme est un bon principe biblique, issu de l'Ancien Testament, qu'on peut sans doute considérer comme une bonne façon de fonctionner d'un point de vue général, mais le Nouveau Testament n'en parle pas explicitement, et donc rien ne nous empêche de donner plus. Dans le Nouveau Testament, l'argent semble avoir en fait deux usages essentiels. Avoir le nécessaire pour vivre, pour soi et pour les siens. Dieu honore cela, le fait de prendre soin des siens. et puis donner généreusement. Et on voit cela au verset 8, afin que disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, donc usage numéro 1, vous ayez en abondance, encore en abondance, pour toute œuvre bonne, usage numéro 2. Est-ce que nous avons bien saisi cela? Certains sans doute oui, j'en doute pas. Mais peut-être pas tous, et pour ma part, je sais qu'il m'arrive de perdre cette réalité de vue. Et nous pouvons être tentés d'avoir une autre façon de penser. On se dit, il y a un, avoir le nécessaire pour vivre. Deux, avoir des choses en plus qui font plaisir. Et puis trois, donner ce qu'il reste pour l'œuvre de Dieu. Et on peut se dire que c'est déjà pas si mal. Mais c'est intéressant que dans le Nouveau Testament, on ne trouve jamais la catégorie 2. Avoir des choses en plus qui font plaisir. Jamais. Alors il ne s'agit pas de dire ce matin qu'il n'y a aucune place dans la vie pour des achats qui font plaisir, qui contribuent à nous détendre, à nous renouveler. Bien sûr que si. Mais cette place, elle devrait venir à sa bonne place après l'œuvre du Seigneur. Soyons ambitieux pour l'œuvre de Dieu. Il est souverain sur son œuvre, bien sûr, mais il nous donne l'incroyable privilège d'en être participants. Ne restons pas sourds à cet appel. Laissons-nous captiver par son projet grandiose. La troisième motivation de la générosité que nous voyons dans ce texte, c'est le fait que lorsque nous donnons, nous recevons, et bien plus que ce que nous avons donné. Donc c'est mon troisième point. Les chrétiens donnent parce qu'ils s'attendent à la générosité de Dieu. Alors le chapitre 9, verset 6 est bien connu. « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. » Et c'est important de bien comprendre ce verset parce qu'il est souvent cité n'importe comment. Et on a tous entendu parler de ces charlatans qui sévissent en particulier dans les pays pauvres et qui se font une fortune sur le dos des croyants en disant que s'ils donnent tout à tel ou tel ministère, ils seront bénis matériellement à l'extrême. Mais ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils ne connaissent pas la Bible déjà et qu'ils ne comprennent pas ces textes qu'ils citent à tort et à travers. On chercherait en vain dans la Bible un seul passage qui exalte la richesse matérielle comme étant un bien à rechercher pour le croyant. Jésus d'ailleurs est explicite à ce sujet. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. » Matthieu 6, 19 à 21. On essaiera de voir dans un instant ce que ça peut vouloir dire de s'amasser des trésors dans le ciel. Mais voyons déjà comment Paul développe sa pensée au verset 8. « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » C'est quand même frappant ce que Paul dit ici. « N'ayez pas peur de donner généreusement, parce que Dieu pourvoira à vos besoins pour que vous puissiez donner plus encore. » Donc l'idée n'est vraiment pas qu'en donnant généreusement, eh bien, nous avons la garantie que Dieu va maintenir ou augmenter notre pouvoir d'achat, mais plutôt que Dieu nous invite à l'audace et à la confiance. L'audace de donner généreusement, même parfois quand ça fait mal, même quand ça crée un inconfort, mais en même temps de s'attendre à ce que Dieu se saisisse de cet investissement pour le royaume et nous le rende au centuple. Peut-être qu'il nous le rendra en ressources financières pour que nous puissions donner plus encore, c'est possible. Mais surtout, il nous le rendra par une relation avec lui qui sera enrichie de jour en jour parce que nous aurons vu sa fidélité à l'œuvre. Et en vivant cette dynamique d'audace et de confiance, nous pouvons être libérés entièrement de l'emprise de l'argent sur nos vies. Nous verrons l'argent non plus comme l'objet de notre convoitise ou de nos frustrations, ni même comme une simple monnaie d'échange neutre, mais comme une occasion d'exprimer notre confiance en Dieu, de faire du bien, de faire ce qui est bon, de l'adorer et de recevoir de lui bénédiction sur bénédiction. Chapitre 9, verset 11, « Vous serez ainsi riches de tout, par toute la générosité qui produira, par notre entremise, des actions de grâce envers Dieu. » Et si Dieu, ce matin, nous invitait à une relation renforcée avec lui ? Un renouvellement de notre foi par un changement de la manière dont nous voyons l'argent dans notre vie. En donnant généreusement, nous nous placerons en première ligne de l'œuvre de Dieu dans ce monde et non pas dans un fauteuil au dernier rang. en donnant, que ce soit à l'église locale, que ce soit à des personnes dans le besoin, que ce soit pour des projets d'évangélisation, des ministères fidèles, nous répondons au besoin le plus dramatique, le plus criant de notre monde, son besoin de l'évangile. Il n'y a tout simplement rien de plus important. Un jour, il n'y aura plus d'iPad. Désolé de le dire. Plus de BMW, ni même de Clio d'ailleurs. Plus de plan d'assurance vie, plus de résidence secondaire et même primaire. Par contre, il y aura encore des hommes et des femmes qui vont devoir voir leur Créateur face à face et qui feront face soit à une vie impérissable en sa présence, dans une nouvelle création, soit qui devront faire face à son jugement parce qu'ils n'auront pas saisi la grâce qui leur était faite en Jésus-Christ. Et Dieu nous lance le défi incroyablement beau et audacieux d'être les porteurs d'un message qui change tout, qui ramène l'espérance dans un monde perdu, un message de paix, de réconciliation, de joie retrouvée auprès de celui qui nous a créés et qui nous aime. Investissons dans l'éternité. Et que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes qui accordent la plus haute place, précisément, à ce qui durera éternellement, la plus haute place au royaume de Dieu. Amen.